Laisse la parole.
Alors, puisque vous parlez couramment français, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez appris à parler?
Comment j'ai appris pendant mes études? Au lycée, pas à la fac, parce qu'à la fac, c'est autre chose.
Et vos études se font en français?
Nous n'avons pas une documentation en arabe, mais on fait des études en arabe. Mais la plupart de la documentation en psychologie, c'est en français et en anglais.
Alors vous étiez obligé de traduire, non?
Non, la traduction. Oui. On est obligé parfois de faire des traductions de la langue française à la langue arabe, ou bien la langue anglaise à la langue arabe.
Et vous avez passé vos études ici? Vous avez fait vos études ici, à Chlef?
Non. La psychologie, c'est toujours à Alger.
Non, je parle du lycée.
Bien sûr, ici à Chlef.
Au centre. Ici?
Non, c'est pas au centre.
Ashtria. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos enseignants de français, surtout?
Sur mes enseignants de français?
Quel souvenir gardez-vous sur vos enfants?
Est-ce que vous étiez une bonne élève en français?
Oui, j'étais excellente. Hein. J'étais dans la classe mathélème, alors c'est pas plus que 3 heures par semaine. Mais j'ai un beau souvenir d'un enseignant français qui applique, qui a fait, si vous voulez dire, il a toujours travaillé sur la littérature française, pas la langue. Mmh. Là, il a toujours essayé de nous faire connaître la littérature, pas la langue. Il y a une différence. Mmh. C'est ça.
Et quel bouquin vous avez lu grâce à lui?
Après, la chose que j'ai apprise de cet enseignant, c'est goûter, si vous voulez dire, la langue, le côté, si vous voulez dire,
esthétique.
Côté mystique, si vous voulez dire, de cette littérature, en nous donnant des extraits des romans, nous faire exposer des romans, de la littérature française et la littérature, si vous voulez dire, mondiale, c'est ça.
Mais en français.
Ah, mais en français, bien sûr. Oui.
C'était un passionné de littérature.
Voilà, c'est ça.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre relation avec vos parents?
C'est une relation de mes parents. Je vois normal. Dépend de la société, de notre éducation, c'est normal.
Et comment vous vous adressez dans la maison?
Là où vous parlez à la maison.
On parle bien de l'arabe. On parle l'arabe.
Avec vos amis aussi?
Non, même dans le travail. Je suis un peu raciste. Alors, mais pas avec le sens, je vois, chez nous, je dévalorise pas une culture vers une culture, mais même dans mon travail, je fais tout mon effort pour présenter mon travail en arabe. Je n'utilise pas la langue française.
D'accord.
Je suis comme ça, voilà. Puisqu'il y a des études et tout. La psychologie dépend de la société, elle dépend pas de
la langue.
Oui, elle dépend plus. Non, elle dépend de la langue, parce que c'est la langue maternelle de notre société, c'est de notre culture, c'est évident, il faut présenter le travail à la manière que tout le monde peut comprendre.
Donc vous utilisez l'arabe dialectal?
Bien sûr.
Mais ça dépend, j'imagine, selon si vous vous adressez par exemple aux aveugles, aux enfants,
oui.
Ou si vous faites une communication dans un séminaire.
Non, c'est
évidemment,
non,
c'est pas pareil.
Ça diffère. Par exemple, lorsqu'on parle entre spécialistes, on utilise une autre terminologie. Mm-hmm. Par exemple, je travaille dans l'établissement, je dois parler avec, je dois communiquer avec des personnes qui comprennent pas ma terminologie.
Oui, bien sûr.
Je dois leur leur transmettre mes idées avec la manière qu'ils vont l'assimiler.
Ouais, c'est ça, quand vous parlez aux enfants, il faut leur parler dans leur langue, tout simplement.
Bien sûr, on va présenter même le travail avec mes collègues de travail. Il faut leur présenter le travail avec la langue qu'ils vont la comprendre.
Bien sûr, c'est normal.
Et vos parents parlent comme un français ?
Mon père, oui. Mon père, oui, pas couramment, mais la maman... Bon, elle comprend la langue, mais elle ne parle pas.
Par exemple, la télévision, vous regardez la télévision plutôt en langue arabe, en langue française ou en anglais ?
Les trois, là. Vos sœurs et votre frère, vous m'avez dit, parlent aussi français, non ?
Tout le monde a fait des études en français à la fac. Alors, mais ils parlent pas. Ils savent parler, mais ils parlent pas. Il y a une différence entre savoir et utiliser ce...
compétences passives ou actives. C'est curieux. Donc finalement, c'est vous qui n'avez pas fait les études en français qui êtes la plus à l'aise en français.
Oui, ils sont très à l'aise en français, mais ils ne l'utilisent pas. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. En général, dans notre région, la plupart des gens savent parler français, mais ils ne parlent pas la langue française. Alors, notre région...
C'est le milieu qui influe sur l'individu.
Voilà. Ça diffère. Par exemple, si vous allez faire un tour dans la Grande Kabylie, par exemple, ou bien Alger, les gens préfèrent parler la langue française, même s'ils ne le parlent pas couramment. Ici, à Chleuf, c'est différent.
Et selon vous, est-ce que c'est par ce que vous disiez tout à l'heure du racisme, ce qui me paraît un peu exagéré?
Racisme, oui, parce qu'on utilise ce mot chez nous comme un mot banal. Chez vous, c'est autre chose. Ouais. Bon, chez nous,
je dirais, moi, c'est une défense de sa langue maternelle.
Voilà. Chez nous, c'est comme ça. C'est une idéologie, si vous voulez dire. C'est une façon de résistance, je ne sais pas, pour garder sa propre culture. C'est ça, c'est... Comme chez vous, les Bretons, les Corses, c'est ça.
Donc vous pensez que c'est particulièrement fort dans la région Chleuf?
Bon, la région Chleuf, à Oran par exemple, à Indefla, côté ouest, c'est fort. Côté est même, c'est la même chose. Mais le centre, même si vous voulez voir dans l'histoire de notre région par exemple, il y avait plus de Français, ils vivaient ensemble avec... Mais les gens ne parlent pas français. Mais si vous voulez voir, par exemple, la région de la Grande Kabylie, il n'y avait pas des Français dans les montagnes, c'est évident. Mais...
C'est parce qu'ils ne les ont pas connus qu'ils veulent bien parler. Voilà. Donc, s'ils les avaient connus, ils ne voudraient plus.
Non, ça n'a rien à voir, parce que c'est évident. Non. Parce qu'il y avait plus de résistance. Ils croient vraiment à leur culture, c'est ça. C'est pour ça qu'ils veulent parler arabe. C'est ça, mais ça n'a rien à voir. C'est... Même les Français, si vous voulez dire, mais non, c'est la langue anglaise qui est plus dominante que la langue française, mais les Français se battent pour avoir. C'est
bien
la même
sûr,
chose pour
sûr.
Nous.
C'est ça. Mais c'est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal.
Mais je vous fais parler parce que vous êtes la première personne qui expose ces idées-là. Alors que d'habitude, les gens disent « Oh, le français, c'est merveilleux !» Presque...
C'est merveilleux,
presque, ils regretteraient le colonialisme. C'est fou, quoi. Ils disent « Oh, quand même, du temps des Français, c'était bien !» Alors, donc, c'est intéressant, je trouve, que vous disiez...
Alors, ils lisent pas l'histoire bien comme il faut. Il y a un manque de culture,
cette période-là.
Non, mais c'est parce que c'est des...
Ah, on parle des personnes âgées. Ah, voilà, ouais. Ils voient que... Parce que c'est leur période de la jeunesse. Ça diffère. Pour nous, c'est autre chose.
C'était mieux, mais c'était pas simplement parce qu'ils étaient jeunes, c'est tout.
Peut-être, oui. Chacun voit les choses à sa façon. Peut-être il y a une différence entre le vécu et si on dit, chez nous on dit un spectateur voit mieux qu'un joueur. Je vois les choses, je suis écartée de leur situation, je vois bien. Pour nous c'est comme ça. Bon, chacun est fier de soi-même, de toute façon.
C'est une bonne formule, je trouve.
Eux, c'est leur jeunesse, c'est la fleur d'âge pour eux. C'est évident qu'ils vont. Maintenant, il est vieux. C'est évident.
Mais malgré tout, vous pensez qu'il faut continuer à enseigner le français
Bien sûr, le français.
En première langue ou carrément le mettre à égalité avec l'anglais? Parce que là, pour l'instant, il est encore plus enseigné que l'anglais en Algérie.
Ah, c'est vrai, on fait partir de la zone de francophonie. Bon, pour moi, personnellement, je ne vois pas grande différence entre l'anglais et le français. Parce que c'est, vous voulez dire, l'anglais, la langue anglaise... Bon, la terminologie de la langue anglaise, c'est presque française. C'est évident. En plus de ça, si vous voulez bien écrire un texte de, disons, de la haute classe pour nous en anglais, même chez les Anglais, on utilise souvent la langue française. Si vous comprenez français, vous pouvez comprendre anglais et espagnol. Voilà, italien même, j'ai pas utilisé l'Italie, mais l'italien, mais j'ai la seule chose que j'ai appris, puisque je connais la langue française, je peux lire et comprendre le français, je peux comprendre l'anglais et l'espagnol. Parce qu'on utilise souvent. C'est pour ça. Pour moi, c'est pas si important d'enseigner l'anglais comme le français, mais la langue la plus proche, c'est bien la langue française, parce qu'on utilise souvent des mots en français, parce que nous avons l'arabe qu'on utilise dans la rue. C'est, il y a beaucoup de français. Alors, l'enfant va apprendre plus facilement la langue française que la langue anglaise.
Vous pensez qu'il vaut mieux partir de quelque chose qui est proche?
Voilà, comment dirais-je, on appelle ça... On va partir de ses compétences initiales, puis on va passer à autre chose.
Et qu'est-ce que vous en dites sur le statut de la langue française généralement dans la région? Comment vous le voyez?
J'ai déjà dit, j'ai déjà dit que
chez les ados.
Les adolescents, il y a, tout dépend des régions. Tout dépend de... Pour l'instant, les adolescents, puisqu'ils côtoient beaucoup l'Internet et tout, ils apprennent la langue française plus fort que...
Et avec la télévision aussi.
Voilà, avec la télévision. Bon, parce qu'il y a plus les chaînes arabes, alors... Mais maintenant, parce qu'il y a l'Internet et tout, ils sont obligés de passer par la langue française.
Oui. Si tu veux chatter, tout, tu
voilà,
français.
Voilà. Toutes les conversations qu'ils font sont en français et tout.
Presque tous. Bon, si vous voulez dire, même s'il est obligé de faire la traduction, mais parfois il faut passer par la langue avant de... Même s'il y avait des sites en arabe et tout, la curiosité de l'enfant va le... Bon, de l'adolescent va le... va le pousser à faire le chemin dans la langue française ou bien anglaise.
Parlons un peu de votre relation avec vos enfants, ceux qui sont des aveugles. Comment vous adressez, comment vous les côtoyez?
Bon, les enfants dans l'école des jeunes aveugles. Bon, je ne travaille pas avec eux en direct, mais si vous voulez, mon travail est basé sur l'observation, diagnostic, puis proposition de programme. Quand j'observe un enfant, c'est-à-dire que je ne dois pas le toucher, je ne dois pas lui dire de faire ça ou ça ou ça. Vous voyez, pendant la période d'observation. Bon, deuxième étape, c'est bien le diagnostic. Bon, d'après plusieurs séances d'observation dans son milieu, pour nous on dit le milieu naturel, la classe ou bien le groupe avec ses copains et tout, je passe au diagnostic, je diagnostique oui, la difficulté qu'il souffre. Puis, je propose mon programme. Bon, j'ai fait des études pour ça, alors je propose mon programme.
Et est-ce que vous travaillez à chaque fois sur des cas individuels?
Bon.
Quand vous dites l'observation, vous observez un enfant par un enfant?
Voilà, un par un, soit quand il s'agit d'un phénomène dans l'école, j'observe le phénomène ou bien le groupe et je trouve des solutions.
Il peut y avoir des problèmes personnels ou au bout d'un moment, parfois ça peut être...
Pas les problèmes personnels, c'est pas mon travail, mais enfin, les problèmes d'intégration, problèmes d'éducation.
C'est ce que je voulais dire.
Voilà, personnel, c'est...
Non, pas le souci avec ses petites copines, ça ne me regarde pas.
Voilà.
Et qui va, si vous voulez, appliquer ce programme?
C'est bien un ensemble des éducateurs.
Ah, c'est pas le deuxième?
Non. C'est un autre travail.
Donc ça veut dire des tas de réunions avec les éducateurs.
Des fois, on écrit des recommandations à faire et c'est tout.
D'accord.
Et ça donne des résultats?
En principe, ça donne. Il y a des fois qu'il y a des gens qui font leur travail, ça donne. Des gens qui font pas leur travail, on va pas.
Ça donne pas.
Voilà, ça donne pas de résultats.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans ce moment-là?
Pour moi, à savoir les personnes avec qui je travaille.
Elle change d'interlocuteur.
Pas d'interlocuteur, mais je. Des fois, je laisse les choses telles qu'elles sont et je vois le résultat. Je donne pourquoi cet enfant il n'est pas avancé ou bien sa situation n'a pas pu s'améliorer. Alors, j'ai fait mon travail. L'enfant n'a pas été pris en charge, c'est tout.
Et ça ne crée pas de problème entre vous et les éducateurs?
Oui, il y a toujours ce complexe d'infériorité entre un psy et un éducateur. Ils n'acceptent pas qu'on... Ils pensent toujours qu'ils sont vexés, quelque chose comme ça.